Chapitre 7. Félicie et Marguerite avaient vécu dans une retraite absolue, en allant néanmoins par économie habiter pendant la belle saison la maison de campagne de leur père. M. Claës s'occupa de ses affaires, paya ses dettes en empruntant une somme considérable sur ses biens et visita la forêt de Wigny. Au milieu de l'année 1817, son chagrin, lentement apaisé, le laissa seul et sans défense contre la monotonie de la vie qu'il menait et qui lui pesa. Il lutta d'abord courageusement contre la science qui se réveillait insensiblement et se défendit à lui-même de penser à la chimie. Puis il y pensa, mais il ne voulut pas s'en occuper activement, il ne s'en occupa que théoriquement. Cette constante étude fit surgir sa passion qui devint ergoteuse. Il discuta s'il s'était engagé à ne pas continuer ses exercices et se souvint que sa femme n'avait pas voulu de son serment. Quoiqu'il se fût promis à lui-même de ne plus poursuivre la solution de son problème, ne pouvait-il changer de détermination du moment où il entrevoyait un succès? Il avait déjà 59 ans. À cet âge, l'idée qui le dominait contracta l'âpre fixité par laquelle commencent les monomanies. Les circonstances conspirèrent encore contre sa loyauté chancelante. La paix dont jouissait l'Europe avait permis la circulation des découvertes et des idées scientifiques acquises pendant la guerre par les savants des différents pays entre lesquels il n'y avait point eu de relation depuis près de 20 ans. La science avait donc marché. Claës trouva que les progrès de la chimie s'étaient dirigés à l'insu des chimistes vers l'objet de ses recherches. Les gens adonnés à la haute science pensaient comme lui que la lumière, la chaleur, l'électricité, le galvanisme et le magnétisme étaient les différents effets d'une même cause, que la différence qui existait entre les corps jusque-là réputés simples devait être produite par les divers dosages d'un principe inconnu. La peur de voir trouver par un autre la réduction des métaux et le principe constituant de l'électricité, deux découvertes qui menaient à la solution de l'absolu, augmenta ce que les habitants de Douai appelaient une folie et porta ce désir à un paroxysme que concevront les personnes passionnées par les sciences ou qui ont connu la tyrannie des idées. Ainsi, Balthazar fut-il bientôt emporté par une passion d'autant plus violente qu'elle avait plus longtemps dormi. Marguerite, qui épiait les dispositions d'âme par lesquelles passait son père, ouvrit le parloir. En y demeurant, elle ranima les souvenirs douloureux que devait causer la mort de sa mère, et réussit en effet, en réveillant les regrets de son père, à retarder sa chute dans le gouffre où il devait néanmoins tomber. Elle voulut aller dans le monde et força Balthazar d'y prendre des distractions. Plusieurs parties considérables se présentèrent pour elle et occupèrent Claës, quoique Marguerite déclara qu'elle ne se marierait pas avant d'avoir atteint sa 25e année. Malgré les efforts de sa fille, malgré de violents combats, au commencement de l'hiver, Balthazar reprit secrètement ses travaux. Il était difficile de cacher de telles occupations à des femmes curieuses. Un jour donc, Martha dit à Marguerite en l'habillant, « Oh, mademoiselle, nous sommes perdus! Ce bonstre de Bulquinier, quel diable déguisé, car je n'ai jamais vu faire le signe de la croix, est remonté dans le grenier. Oh, voilà monsieur votre père embarqué pour l'enfer. Fasse le ciel qui ne vous tue pas comme il a tué cette pauvre chère madame. » Mais cela n'est pas possible, dit Marguerite. Ben venez voir la preuve de leur trafic. Mademoiselle Claës courut à la fenêtre et aperçut en effet une légère fumée qui sortait par le tuyau du laboratoire. « J'ai 21 ans dans quelques mois, » pensa-t-elle, « je saurais m'opposer à la dissipation de notre fortune. » En se laissant aller à sa passion, Balthazar dut nécessairement avoir moins de respect pour les intérêts de ses enfants qu'il en avait eu pour sa femme. Les barrières étaient moins hautes, sa conscience était plus large, sa passion devenait plus forte. Aussi marcha-t-il dans sa carrière de gloire, de travail, d'espérance et de misère, avec la fureur d'un homme plein de conviction. Sûr du résultat, il se mit à travailler jour et nuit, avec un emportement dont s'effrayèrent ses filles, qui ignoraient combien est peu nuisible le travail auquel un homme se plaît. Aussitôt que son père eut recommencé ses expériences, Marguerite retrancha les superfluités de la table, devint d'une parcimonie digne d'un Saint-Navarre, et fut admirablement secondée par Josette et Martha. Claës ne s'aperçut pas de cette réforme qui réduisait la vie au strict nécessaire. D'abord, il ne déjeunait pas, puis il ne descendait de son laboratoire qu'au moment même du dîner. Enfin, il se couchait quelques heures après être resté dans le parloir entre ses deux filles sans leur dire un mot. Quand il se retirait, lui souhaitait le bonsoir, et il se laissait embrasser machinalement sur les deux joues. Une semblable conduite eût causé les plus grands malheurs domestiques si Marguerite n'avait été préparée à exercer l'autorité d'une mère et prémunie par une passion secrète contre les malheurs d'une si grande liberté. Pierre Quint avait cessé de venir voir ses cousines en jugeant que leur ruine allait être complète. Les propriétés rurales de Balthazar, qui rapportaient 16 000 francs et valaient environ 200 000 écus, étaient déjà grevées de 300 000 francs d'hypothèque. Avant de se remettre à la chimie, Claës avait fait un emprunt considérable. Le revenu suffisait précisément au paiement des intérêts. Mais comme, avec l'imprévoyance naturelle aux hommes voués à une idée, il abandonnait ses fermages à Marguerite pour subvenir aux dépenses de la maison, le notaire avait calculé que 3 ans suffiraient pour mettre le feu aux affaires et que les gens de justice dévoreraient ce que Balthazar n'aurait pas mangé. La froideur de Marguerite avait amené Pierre Quint à un état d'indifférence presque hostile. Pour se donner le droit de renoncer à la main de sa cousine, si elle devenait trop pauvre, il disait des Claës avec un air de compassion. « Oh, ces pauvres gens sont ruinés. Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les sauver, mais que voulez-vous ?» Mademoiselle Claës s'est refusée à toutes les combinaisons légales qui devaient les préserver de la misère. Nommée proviseur du collège de Douai par la protection de son oncle, Emmanuel, que son mérite transcendant avait fait digne de ce poste, venait voir tous les jours, pendant la soirée, les deux jeunes filles qui appelaient près d'elles la douaine aussitôt que leur père se couchait. Le coup de marteau doucement frappé par le jeune de Solis ne tardait jamais. Depuis 3 mois, encouragé par la gracieuse et muette reconnaissance avec laquelle Marguerite acceptait ses soins, il était devenu lui-même. Les rayonnements de son âme pure comme un diamant brillèrent sans nuages, et Marguerite put en apprécier la force et la durée en voyant combien la source en était inépuisable. Elle admirait, une à une, s'épanouir les fleurs après en avoir respiré par avance les parfums. Chaque jour, Emmanuel réalisait une des espérances de Marguerite et faisait luire dans les régions enchantées de l'amour de nouvelles lumières qui chassaient les nuages, rassérénaient leur ciel et colonneraient les fécondes richesses ensevelies jusque-là dans l'ombre. Plus à son aise, Emmanuel put déployer les séductions de son cœur jusqu'alors discrètement cachées. Cette expansive gaieté du jeune âge, cette simplicité que donne une vie remplie par l'étude et les trésors d'un esprit délicat que le monde n'avait pas adultéré, toutes les innocentes joyeusetés qui vont si bien la jeunesse aimante. Son âme et celle de Marguerite s'entendirent mieux. Ils allèrent ensemble au fond de leur cœur et y trouvèrent les mêmes pensées. Perles d'un même éclat, suaves et fraîches harmonies semblables à celles qui sont sous la mer et qui, dit-on, fascinent les plongeurs. Ils se firent connaître l'un à l'autre par ces échanges de propos, par cette alternative curiosité qui, chez tous deux, prenait les formes les plus délicieuses du sentiment. Ce fut sans fausse honte, mais non sans de mutuelle coquetterie. Les 2 heures que Manuel venait passer tous les soirs entre ces 2 jeunes filles et Martha faisaient accepter à Marguerite la vie d'angoisse et de résignation dans laquelle elle était entrée. Cet amour naïvement progressif fut son soutien. Emmanuel portait dans ses témoignages d'affection cette grâce naturelle qui séduit tant, cet esprit doux et fin qui nuance l'uniformité du sentiment comme les facettes relèvent la monotonie d'une pierre précieuse en faisant jouer tous les feux. Admirable façon dont le secret appartient aux cœurs aimants et qui rendent les femmes fidèles à la main artiste sous laquelle les formes renaissent toujours neuves, à la voix qui ne répète jamais une phrase sans la rafraîchir par de nouvelles modulations. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il est un art aussi. Quelques mots simples, une préoccupation, un rien révèlent à une femme le grand et sublime artiste qui peut toucher son cœur sans le flétrir. Et plus elle est Emmanuel, plus charmantes étaient les expressions de son amour. Oh, « j'ai devancé Pierre Quint, lui dit-il un soir. Oh, il vient vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je préfère vous l'apprendre moi-même. Votre père a vendu votre forêt à des spéculateurs qui l'ont revendu par partie. Les arbres sont déjà coupés. Tous les madriers sont enlevés. Monsieur Claës a reçu 300 000 francs comptant dont il s'est servi pour payer ses dettes à Paris. Et, pour les éteindre entièrement, il a même été obligé de faire une délégation de 100 000 francs sur les 100 000 écus qui restent à payer par les acquéreurs. » Pierre Quint entra. « Eh bien, ma chère cousine, dit-il, vous l'avez ruiné, vous l'avez prédit, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Votre père a bon appétit. Il a, de la première bouchée, avalé vos bois. Votre subrogé tuteur, M. Coninx, est à Amsterdam, où il achève de liquider sa fortune, et Claes a saisi ce moment-là pour faire son coup. C'est pas bien. Je viens d'écrire au bonhomme Coninx, mais quand il arrivera, tout sera fricassé. Vous serez obligé de poursuivre votre père. Le procès ne sera pas long, mais ce sera un procès déshonorant que M. Coninck ne peut se dispenser d'intenter, et la loi l'exige. Voilà le fruit de votre entêtement. Reconnaissez-vous maintenant combien j'étais prudent, combien j'étais dévoué à vos intérêts? Je vous apporte une bonne nouvelle, mademoiselle, dit le jeune de Solis de sa voix douce. Gabriel est reçu à l'école polytechnique. Oh, les difficultés qui s'étaient élevées pour son admission sont aplanies. Marguerite remercia son ami par un sourire et dit « Mes économies auront une destination. Martha, nous nous occuperons dès demain du trousseau de Gabriel. Ma pauvre Félicie, nous allons bien travailler, dit-elle en baisant sa sœur au front. Mais demain, vous l'aurez ici pour 10 jours, il doit être à Paris le 15 novembre. Mon cousin Gabriel prend un bon parti, dit le notaire en toisant le proviseur. Il aura besoin de se faire une fortune. Mais ma chère cousine, il s'agit de sauver l'honneur de la famille. Voudriez-vous cette fois m'écouter? Non, dit-elle, non, non, s'il s'agit encore de mariage. Mais alors qu'allez-vous faire? Moi, mon cousin, rien. Mais cependant, vous êtes majeur. Une ligne autre que celle du tuteur pour représenter les intérêts du pupille et pour surveiller la gestion du tuteur. Monsieur Coninck, c'est donc parent du côté maternel, mais Claes parle pourtant souvent de leur ancêtre commun, le martyr gantois. Et de plus, Coninx, devenu belge, on l'a vu, liquide sa fortune à Amsterdam. Puis, va aller s'établir en France. Étrange parcours. Dans quelques jours. Avez-vous, dit Marguerite, un parti à me proposer qui puisse concilier nos intérêts et ce que nous devons à notre père, à l'honneur de la famille? Mais cousine, nous ne pouvons rien sans votre oncle. Cela posé, je reviendrai quand il sera de retour. Adieu, monsieur, dit Marguerite. Mais plus elle devient pauvre, plus elle fait la bégueule, pensa le notaire. Adieu, mademoiselle, reprit Pierrequin à haute voix. Monsieur le proviseur, je vous salue parfaitement. Et il s'en alla, sans faire attention ni à Félicie ni à Martha. Mais depuis 2 jours, j'étudie le code et j'ai consulté un vieil avocat ami de mon oncle, dit Emmanuel d'une voix tremblante. Je partirai, si vous m'y autorisez, demain pour Amsterdam. Écoutez, chère Marguerite, il disait ce mot pour la première fois. Elle la remercia par un regard mouillé et par un sourire et une inclination de tête. Il s'arrêta, montra Félicie et Martha. Vous parlez devant ma sœur, dit Marguerite. Elle n'a pas besoin de cette discussion pour se résigner à notre vie de privation et de travail. Elle est si douce et si courageuse. Mais elle doit connaître combien le courage nous est nécessaire. Les 2 heures se prirent la main et s'embrassèrent comme pour se donner un nouveau gage de leur union devant le malheur. Laissez-nous, Martha. Chère Marguerite, reprit Emmanuel en laissant percer dans l'intention de sa voix le bonheur qu'il éprouvait à conquérir les menus droits de l'affection, je me suis procuré les noms et la demeure des acquéreurs qui doivent les 200 000 francs restant sur le prix des bois abattus. Eh bien, demain, si vous y consentez, un avoué agissant au nom de Monsieur Coninx, qui ne désouvrira pas, mettra opposition entre leurs mains. Mais dans 6 jours, votre grand-oncle sera de retour. Il convoquera un conseil de famille et fera émanciper Gabriel, qui a 18 ans. Et tant vous et votre frère autorisés à exercer vos droits, vous demanderez votre part dans le prix des bois. Et M. Claës ne pourra pas vous refuser les 200 000 francs arrêtés par l'opposition. Quant aux 100 000 autres qui vous seront dus, vous obtiendrez une obligation hypothécaire qui reposera sur la maison que vous habitez. Monsieur Comyn réclamera des garanties pour les 300 000 francs qui reviennent à la Félicie avant. Et dans cette situation, votre père sera forcé de laisser hypothéquer ses biens de la plaine d'Orchy déjà grevés de 100 000 écus. La loi d'une priorité rétroactive aux inscriptions prises dans l'intérêt des mineurs. Tout sera donc sauvé. Monsieur Claës aura désormais les mains liées. Vos terres sont inaliénables. Il ne pourra plus rien emprunter sur les siennes, qui répondront de sommes supérieures à leur prix. Et les affaires se seront faites en famille, sans scandale et sans procès. Votre père sera forcé d'aller prudemment dans ses recherches, si même il ne les cesse tout à fait. Oui, dit Marguerite, mais où seront nos revenus? Les 100 000 francs hypothéqués sur cette maison ne nous rapporteront rien, puisque nous y demeurons. Le produit des biens que possède mon père dans la palme d'Orchy payera les intérêts des 300 000 francs dus à des étrangers, mais avec quoi vivrons-nous? D'abord, dit Emmanuel en plaçant les 50 000 francs qui resteront à Gabriel sur sa part dans les fonds publics. Vous en aurez, d'après le taux actuel, plus de 4 000 livres de rente qui suffiront à sa pension et à son entretien à Paris. Gabriel ne peut disposer ni de la somme inscrite sur la maison de son père, ni du fonds de ses rentes. Ainsi, vous ne craindrez pas qu'il en dissipe un denier et vous aurez une charge de moins. Puis ne vous restera-t-il pas 150 000 francs à vous? Mais mon père me les demandera, dit-elle avec effroi, et je ne saurais pas les lui refuser. Eh bien, chère Marguerite, vous pouvez les sauver encore, en vous en dépouillant. Placez-les sur le grand livre au nom de votre frère. Cette somme vous donnera 12 ou 13 000 livres de rente qui vous feront vivre. Les mineurs émancipés ne pouvant rien aliéner sans l'avis d'un conseil de famille, vous gagnerez ainsi 3 ans de tranquillité. Et à cette époque, votre père aura trouvé son problème, ou vraisemblablement y renoncera. Gabriel, devenu majeur, vous restituera les fonds pour établir les comptes entre vous quatre. Marguerite se fit expliquer de nouveau des dispositions de loi qu'elle ne pouvait comprendre tout d'abord. Ce fut certes une scène neuve que celle des deux amants étudiant le code dont s'était muni Emmanuel pour apprendre à sa maîtresse les lois qui régissaient les biens des mineurs, et elle en eut bientôt saisi l'esprit, grâce à la pénétration naturelle aux femmes, et que l'amour aiguisait encore. Le lendemain, Gabriel revint à la maison paternelle. Quand M. de Solis le rendit à Balthazar, en lui annonçant l'admission à l'école polytechnique, le père remercia le proviseur par un geste de main et dit: Ben, j'en suis bien aise. Gabriel sera donc un savant. Oh, mon frère, dit Marguerite en voyant Balthazar remonter à son laboratoire, travaille bien, ne dépense pas d'argent, fais tout ce qu'il faudra faire, mais sois économe. Les jours où tu sortiras dans Paris, va chez nos amis, chez nos parents, pour ne contracter aucun dégoût qui ruine les jeunes gens. Ta pension monte à près de 1 000 écus. Il te restera 1 000 francs pour tes menus plaisirs. Ça doit être assez. Bon, je réponds de lui, dit Emmanuel de Solis en frappant sur l'épaule de son élève. Un mois après, M. Coninx avait, de concert avec Marguerite, obtenu de Claès toutes les garanties désirables. Les plans si sagement conçus par Emmanuel de Solis furent entièrement approuvés et exécutés. En présence de la loi, devant son cousin, dont la probité farouche transigeait difficilement sur les questions d'honneur, Balthazar, honteux de la vente qu'il avait consentie dans un moment où il était harcelé par ses créanciers, se soumit à tout ce qu'on exigea de lui. Satisfait de pouvoir réparer le dommage qu'il avait presque involontairement fait à ses enfants, il signa les actes avec la préoccupation d'un savant. Il était devenu complètement imprévoyant, à la manière des nègres qui, le matin, vendent leur femme pour une goutte d'eau-de-vie et la pleurent le soir. Il ne jetait même pas les yeux sur son avenir le plus proche. Il ne se demandait pas quelles seraient ses ressources quand il aurait fondu son dernier écu. Il poursuivait ses travaux, continuait ses achats, sans savoir qu'il n'était plus que le possesseur titulaire de sa maison, de ses propriétés, et qu'il lui serait impossible, grâce à la sévérité des lois, de se procurer un sou sur le bien desquels il était en quelque sorte le gardien judiciaire. L'année 1818 expira sans aucun événement malheureux. Les deux jeunes filles payèrent les frais nécessités par l'éducation de Jean et satisfirent à toutes les dépenses de leur maison avec les 18 000 francs de rente placés sous le nom de Gabriel, dont les semestres leur furent envoyés exactement par leurs frères. Monsieur de Solis perdit son oncle dans le mois de décembre de cette année. Un matin, Marguerite apprit par Martha que son père avait vendu sa collection de tulipes, le mobilier de la maison de devant et toute l'argenterie. Elle fut obligée de racheter les couverts nécessaires au service de la table et les fit marquer à son chiffre. Jusqu'à ce jour, elle avait gardé le silence sur les déprédations de Balthazar. Mais le soir, après le dîner, elle pria Félicie de la laisser seule avec son père, et quand il fut assis, suivant son habitude au coin de la cheminée du parloir, Marguerite lui dit « Mon cher père, vous êtes le maître de tout vendre ici, même vos enfants. Ici, nous vous obéirons tous sans murmure. Mais je suis forcé de vous faire observer que nous sommes sans argent, que nous avons à peine de quoi vivre cette année et que nous serons obligés, Félicie et moi, de travailler jour et nuit pour payer la pension de Jean avec le prix de la robe de dentelle que nous avons entreprise. Je vous en conjure, mon beau-père, discontinuez vos travaux. »
Tu as raison, mon enfant. Dans 6 semaines, tout sera fini. J'aurai trouvé l'absolu, ou l'absolu sera trouvable. Vous serez tous riches à millions. »
Laissez-nous pour le moment un morceau de pain, répondit Marguerite.
Il n'y a pas de pain ici, dit Claës d'un air effrayé. Pas de pain chez un Claës, et tout le bien.
Mais vous avez rasé la forêt de Vigny. Le sol n'en est pas encore libre et ne peut rien produire. Quant à vos fermes d'orchis, les revenus ne suffisent point à payer les intérêts des sommes que vous avez empruntées.
Alors avec quoi vivons-nous donc ?
Demanda-t-il. Marguerite lui montra son aiguille et ajouta : Les rentes de Gabriel nous aident, mais elles sont insuffisantes. Je joindrai les deux bouts de l'année si vous m'accabliez de factures auxquelles je ne m'attends pas. Vous ne me dites rien de vos achats en ville. Quand je crois avoir assez pour mon trimestre et que mes petites dispositions sont faites, il m'arrive un mémoire de soude, de potasse, de zinc, de soufre, que sais-je.
Mais ma chère enfant, encore 6 semaines de patience. Après, je me conduirai sagement. Et tu verras des merveilles, ma petite Marguerite.
Il est bien temps que vous pensiez à vos affaires. Vous avez tout vendu. Tableaux, tulipes, argenterie, il ne nous reste plus rien. Au moins, ne contractez pas de nouvelles dettes.
Bon, j'en veux plus faire, dit le vieillard.
Plus ? S'écria-t-elle. Vous en avez donc ?
Oh, rien, des misères, répondit-il en baissant les yeux et rougissant.
Marguerite se trouva pour la première fois humiliée par l'abaissement de son père et en souffrit tant qu'elle n'osa l'interroger. Un mois après cette scène, un banquier de la ville vint pour toucher une lettre de change de 10 000 francs souscrite par Claës. Marguerite, ayant prié le banquier d'attendre pendant la journée, en témoignant le regret de n'avoir pas été prévenu de ce paiement, celui-ci l'avertit que la maison prêtait les Chiffreville en avait 9 autres de même somme, échéant de mois en mois.
« Ah, tout est dit !» s'écria Marguerite, « l'heure est venue !»
Elle envoya chercher son père et se promena tout agitée à grands pas dans le parloir en se parlant à elle-même. «
Me trouver 100 000 francs, dit-elle, mais où voir notre père en prison ? Oh, que faire ?»
Balthazar ne descendit pas. Lassée de l'attendre, Marguerite monta au laboratoire. En entrant, elle vit son père au milieu d'une pièce immense, fortement éclairée, garnie de machines et de verreries poudreuses. Ça et là, des livres, des tables encombrées de produits étiquetés, numérotés. Partout, le désordre qu'entraîne la préoccupation du savant y froissait les habitudes flamandes. Cet ensemble de matras, de cornues, de métaux, de cristallisations fantasquement colorées, d'échantillons accrochés au mur ou jetés sur des fourneaux, était dominé par la figure de Balthazar Claës, qui, sans habit, les bras nus comme ceux d'un ouvrier, montrait sa poitrine couverte de poils blanchis comme ses cheveux. Ses yeux horriblement fixes ne quittèrent pas une machine pneumatique. Le récipient de cette machine était coiffé d'une lentille formée par de doubles verres convexes, dont l'intérieur était plein d'alcool et qui réunissait les rayons du soleil entrant alors par l'un des compartiments de la rose du grenier. Le récipient, dont le plateau était isolé, communiquait avec les fils d'une immense pile de volta. Le mulquinier, occupé à faire mouvoir le plateau de cette machine montée sur un axe mobile, afin de toujours maintenir la lentille dans une direction perpendiculaire au rayon du soleil, se leva, la face noire de poussière, et dit « Oh, mademoiselle, n'approchez pas !» L'aspect de son père, qui, presque agenouillé devant sa machine, recevait d'aplomb la lumière du soleil et dont les cheveux épars ressemblaient à des fils d'argent, son crâne bossué, son visage contracté par une attente affreuse, la singularité des objets qui l'entouraient, l'obscurité dans laquelle se trouvaient les parties de ce vaste grenier d'où s'élançaient des machines bizarres, tout contribuait à frapper Marguerite qui se dit avec terreur « Mais mon père est fou !» Elle s'approcha de lui pour lui dire à l'oreille « Envoyez le mulquinier !»« Non, 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 mon enfant, j'ai besoin de lui. J'attends l'effet d'une belle expérience à laquelle les autres n'ont pas songé. Voici 3 jours que nous guettons un rayon de soleil. Oh, j'ai les moyens de soumettre les métaux dans un vide parfait, au feu solaire concentré et à des courants électriques. Vois-tu, dans un moment, l'action la plus énergique dont puisse disposer un chimiste va éclater, et moi seul. Mais mon père, au lieu de vaporiser les métaux, vous devriez bien les réserver pour payer vos dettes de change. Attends, attends! Monsieur Berscus est venu, mon père. Il lui faut 10 000 francs à 4 heures. Oui, 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 tout à l'heure. Oui, je vais signer ces petits effets pour ce mois-ci, c'est vrai. Je croyais que j'aurais trouvé l'absolu. Oh, mon Dieu, si j'avais le soleil de juillet, mon expérience serait faite. Il se prit par les cheveux, s'assit sur un mauvais fauteuil de canne, et quelques larmes roulèrent dans ses yeux. Mais, monsieur a raison, tout ça c'est la faute de ce gredin de soleil qui est trop faible, lâche, paresseux. Le maître et le valet ne faisaient plus attention à Marguerite. Laissez-nous, mulquinier, dit-elle. Ah, mais je tiens une nouvelle expérience, s'écria Claës. Mon père, oubliez vos expériences, lui dit sa fille quand ils furent seuls. Vous avez 100 000 francs à payer. Et nous ne possédons pas un liard. Quittez votre laboratoire. Il s'agit aujourd'hui de votre honneur. Que deviendriez-vous quand vous serez en prison? Sourirez-vous vos cheveux blancs et le nom Claës par l'infamie d'une banqueroute? Eh bien, je m'y opposerai, moi. J'aurai la force de combattre votre folie. Il serait affreux de vous voir sans pain dans vos derniers jours. Ouvrez les yeux sur notre position. Ayez donc enfin de la raison. Folie ! S'écria Balthazar, qui se dressa sur ses jambes, fixa ses yeux lumineux sur sa fille, se croisa les bras sur la poitrine et répéta le mot « folie » si majestueusement que Marguerite trembla. « Oh, ta mère ne m'aurait pas dit ce mot ! Reprit-il. Elle n'ignorait pas l'importance de mes recherches. Elle avait appris une science pour me comprendre. Elle savait que je travaille pour l'humanité et qu'il n'y a rien de personnel ni de sordide en moi. Le sentiment de la femme qui aime, je le vois, au-dessus de l'affection filiale. Oui, oui, l'amour est le plus beau de tous les sentiments. Avoir de la raison, reprit-il en se frappant la poitrine. Mais en manquais-je? Ne suis-je pas moi? Nous sommes pauvres, ma fille, eh bien, je le veux ainsi. Je suis votre père, obéissez-moi. Je vous ferai riche quand il me plaira. Votre fortune, mais c'est une misère. Quand j'aurai trouvé un dissolvant du carbone, j'emplirai votre parloir de diamants, et c'est une niaiserie en comparaison de ce que je cherche. Vous pouvez bien attendre quand je me consume en efforts gigantesques. Mon père, je n'ai pas le droit de vous demander compte des 4 millions que vous avez engloutis dans ce grenier sans résultat. Je ne vous parlerai pas de ma mère que vous avez tuée. Si j'avais un mari, je l'aimerais sans doute autant que vous aimez ma mère
et je serai prête à tout lui sacrifier, comme elle vous sacrifiait tout. J'ai suivi ses ordres en me donnant à vous tout entière. Je voulais prouver en ne me mariant point, afin de ne pas vous obliger à me rendre votre compte de tutelle. Laissons le passé et pensons au présent. Je viens ici représenter la nécessité que vous avez créée vous-même. Il faut de l'argent pour vos lettres de change, entendez-vous? Il n'y a rien à saisir ici que le portrait de votre aïeul Van Graes. Je viens donc au nom de ma mère, qui s'est trouvée trop faible pour défendre ses enfants contre leur père et qui m'a ordonné de vous résister. Je viens au nom de mes frères et de ma sœur. Je viens, mon père, au nom de tous les Claes, vous demander de laisser vos expériences et de vous faire une fortune à vous avant de les poursuivre. Si vous vous armez de votre paternité et qui ne se fait sentir que pour nous tuer, j'ai pour moi vos ancêtres et l'honneur qui parlent plus haut que la chimie. Les familles passent avant la science. J'ai trop été votre fille.
Et tu veux être alors mon bourreau? Dit-il d'une voix affaiblie. Marguerite se sauva pour ne pas abdiquer le rôle qu'elle venait de prendre. Elle crut avoir entendu la voix de sa mère quand elle lui avait dit
« Ne contrarie pas trop ton père, aime-le bien. »«
Mademoiselle fait là-haut de la belle ouvrage, » dit le mulquinier en descendant à la cuisine pour déjeuner.
Oh, « Nous allions mettre la main sur le secret, nous n'avions plus besoin que d'un brin de soleil et de juillet, car monsieur, oh, quel homme, mais il est quasiment dans les choses du bon Dieu. Il s'en faut pas de ça, » dit-il à Josette en faisant claquer l'ongle de son propre pouce droit sous la dent populairement nommée la palette, que nous sachions le principe de tout. Patatras, elle s'en vient crier pour des bêtises de lettres de change.
Eh bien, payez-les de vos gages, dit Martha, ces lettres d'échange.
Mais il n'y a pas de beurre à mettre sur mon pain, dit le mulquinier à Josette.
Et de l'argent pour en acheter, répondit aigrement la cuisinière.
Comment, vieux monstre? Mais si vous faites de l'or dans votre cuisine de démon, pourquoi faites-vous pas un peu de beurre? Ce serait pas si facile et vous en vendriez au marché de quoi faire aller à la marmite. Nous mangeons du pain sec, nous autres, et ces deux demoiselles se contentent de pain et de noix. Vous seriez donc bien mieux nourris que les maîtres. Mademoiselle ne veut dépenser que 100 francs par mois pour toute la maison. Nous faisons plus qu'un dîner. Mais si vous voulez des douceurs, vous avez vos fourneaux là-haut, où vous frigassez des perles, qu'on ne parle que de ça au marché. Faites-vous-y des poulets rôtis.
Le mulquinier prit son pain et sortit.
Mais il va acheter quelque chose de son argent, dit Martha. Tant mieux, ce sera autant d'économiser. Est-il avare, ce chinois-là?
Fallait le prendre par la famine, dit Josette.
Voilà 8 jours qu'il n'a rien frotté nulle part. Je fais son ouvrage, il est toujours là-haut. Il peut bien me payer de ça en nous régalant de quelques harengs qu'il en apporte. Je m'en vais joliment les lui frondre.
Ah, dit Martha, j'entends mademoiselle Marguerite qui pleure.
Son vieux sorcier de père avalant à la maison, sans dire une parole chrétienne, le sorcier. Ah, dans mon pays, on l'aurait déjà brûlé vif, mais ici, on n'a pas plus de religion que chez les Maures d'Afrique.
Mademoiselle Claes étouffait mal ses sanglots en traversant la galerie. Elle gagna sa chambre, chercha la lettre de sa mère et lut ce qui suit. « Mon enfant, si Dieu le permet, mon esprit sera dans ton cœur quand tu liras ces lignes, les dernières que j'aurai tracées. Elles sont pleines d'amour pour mes chers petits qui restent abandonnés à un démon auquel je n'ai pas su résister. Il aura donc absorbé votre pain, comme il a dévoré ma vie et même mon amour. Tu savais, ma bien-aimée, si j'aimais ton père. Je vais expirer et l'aimant moins, puisque je prends contre lui des précautions que je n'aurais pas avouées de mon vivant. Oui,
j'aurai gardé dans le fond de mon cercueil une dernière ressource pour le jour où vous serez au plus haut degré du malheur. S'il vous a réduit à l'indigence, ou s'il faut sauver notre honneur, mon enfant, tu trouveras chez M. de Solis, s'il vit encore, sinon chez son neveu, notre bon Emmanuel, 170 000 francs environ qui vous aideront à vivre. Si rien n'a pu dompter sa passion, si ses enfants ne sont pas une barrière plus forte pour lui que ne l'a été mon bonheur, et ne l'arrête pas dans sa marche criminelle, quittez votre père, vivez au moins. Je ne pouvais l'abandonner, je me devais à lui. Mais toi, Marguerite, sauve la famille. Je t'absous de tout ce que tu feras pour défendre Gabriel, Jean et Félicie. Prends courage. Sois l'ange tutélaire des classes. Sois ferme, j'ose dire, sois sans pitié. Mais pour pouvoir réparer les malheurs déjà faits, il faut conserver quelque fortune. Et tu dois te considérer comme étant au lendemain de la misère. Rien n'arrêtera la fureur de la passion qui m'a tout ravi. Ainsi, ma fille, ce sera être pleine de cœur que d'oublier ton cœur. Ta dissimulation, s'il fallait mentir à ton père, serait glorieuse. Tes actions, quelque blâmables qu'elles puissent paraître, seraient toutes héroïques, faites dans le but de protéger ta famille. Le vertueux monsieur de Solis m'a dit, et jamais conscience ne fut ni plus ni pure clairvoyante que la sienne, je n'aurais pas eu la force de te dire ces paroles, même en mourant. Cependant, sois toujours respectueuse et bonne dans cette horrible lutte, résiste en adorant, refuse avec douceur. J'aurai donc eu des larmes inconnues et des douleurs qui n'éclateront qu'après ma mort. Embrasse en mon nom mes chers enfants au moment où tu deviendras ainsi leur protection. Que Dieu et les saints soient avec toi. Joséphine. À cette lettre était jointe une reconnaissance de messieurs de Solis, oncle et neveu, qui s'engageait à remettre le dépôt fait entre leurs mains par Madame Claës à celui de ses enfants qui leur représenterait cet écrit. Martha ! Cria Marguerite à la duègne qui monta promptement. Allez chez Monsieur Emmanuel et priez-le de passer chez moi. Noble et discrète créature ! Il ne m'a jamais rien dit à moi, pensa-t-elle. À moi, dont les ennuis et les chagrins sont devenus les siens. Emmanuel vint avant que Martha ne fût de retour. Vous avez eu des secrets pour moi, dit-elle en lui montrant les cris. Emmanuel baissa la tête. Marguerite, vous êtes donc bien malheureuse, reprit-il en laissant rouler quelques pleurs dans ses yeux. Oh oui! « Soyez mon appui, vous que ma mère a nommé là, notre bon Emmanuel, » dit-elle en lui montrant la lettre, et ne pouvant réprimer un mouvement de joie en voyant son choix approuvé par sa mère. « Mon sang et ma vie étaient à vous, le lendemain du jour où je vous vis dans la galerie, » répondit-il en pleurant de joie et de douleur. « Mais je ne savais pas, je n'osais pas espérer qu'un jour vous accepteriez mon sang. Oh, si vous me connaissez bien !» Vous devez savoir que ma parole est sacrée. Pardonnez-moi cette parfaite obéissance aux volontés de votre mère. Il ne m'appartenait pas d'en juger les intentions. Mais vous nous avez sauvés, dit-elle en l'interrompant et lui prenant le bras pour descendre au parloir. Après avoir appris l'origine de la somme que gardait Emmanuel, Marguerite lui confia la triste nécessité qui poignait la maison. « Mais il faut aller payer les lettres de change, » dit Emmanuel. « Si elles sont toutes chez Merckx-Cruss, vous gagnerez les intérêts. Je vous remettrai les 70 000 francs qui vous resteront. Mon pauvre oncle m'a laissé une somme semblable, en ducat, qui sera facile de transporter secrètement. » Oui, dit-elle, apportez-les à la nuit. Quand mon père dormira, nous les cacherons à nous deux. S'il savait que j'ai de l'argent, peut-être me ferait-il violence. Oh, Emmanuel, se défier de son père, dit-elle en pleurant et appuyant son front sur le cœur du jeune homme. Ce gracieux et triste mouvement par lequel Marguerite cherchait une protection fut la première expression de cet amour toujours enveloppé de mélancolie, toujours contenu dans une sphère de douleur. Mais ce cœur trop plein devait déborder, et ce fut sous le poids d'une misère. Que faire? Que devenir? Il ne se voit rien, il ne se soucie ni de nous ni de lui, car je ne sais pas comment il peut vivre dans ce grenier dont l'air est brûlant. Mais que pouvez-vous attendre d'un homme qui à tout moment s'écrie comme Richard III, « Mon royaume pour un cheval !» dit Emmanuel. « Il sera toujours impitoyable, et vous devez l'être autant que lui. Payez ses lettres de change, donnez-lui, si vous voulez, votre fortune, mais celle de votre sœur, celle de vos frères, n'est ni à vous ni à lui. » « Donnez ma fortune, » dit-elle, en serrant la main d'Emmanuel et lui jetant un regard de feu. « Vous me le conseillez, vous ?» Tandis que Pierre Quint faisait mille mensonges pour me la conserver. « Hélas, peut-être suis-je égoïste à ma manière, » dit-il. « Tantôt, je vous voudrais sans fortune. Il me semble que vous seriez plus près de moi. » Mais tantôt je vous voudrais riche, heureuse, et je trouve qu'il y a de la petitesse à se croire séparée par les pauvres grandeurs de la fortune. Cher, ne parlons pas de nous. Nous, répéta-t-il avec ivresse. Puis après une pause, il ajouta. Oui, le mal est grand, mais il n'est pas irréparable. Il se réparera par nous seuls. La famille Claes n'a plus de chef. Pour en arriver à ne plus être ni père, ni homme. N'avoir aucune notion du juste et de l'injuste, car lui, si grand, si généreux, si probe, il a dissipé, malgré la loi, le bien des enfants qui lui doit servir de défenseur. Dans quel abîme est-il donc tombé, mon Dieu? Que cherche-t-il encore? Ah, malheureusement, ma chère Marguerite, s'il a tort, comme chef de famille, il a raison scientifiquement. Et une vingtaine d'hommes en Europe l'admireront, là où tous les autres le taxeront de folie. Mais vous pouvez sans scrupule lui refuser la fortune de ses enfants. Une découverte a toujours été un hasard. Si votre père doit rencontrer la solution de son problème, il la trouvera sans tant de frais, peut-être au moment où il en désespérera. « Ma pauvre mère est heureuse, » dit Marguerite. « Elle aurait souffert mille fois à la mort avant de mourir, elle qui a péri à son premier choc contre la science. Mais ce combat n'a pas de fin. »« Oh, il y a une fin, » reprit Emmanuel. « Quand vous n'aurez plus rien, M. Claes ne trouvera plus de crédit et s'arrêtera. »« Mais qu'il s'arrête donc dès aujourd'hui, » s'écria Marguerite. « Nous sommes sans ressources. » Monsieur de Solis alla racheter les lettres de change et vint les remettre à Marguerite. Balthazar descendit quelques moments avant le dîner contre son habitude. Pour la première fois depuis 2 ans, sa fille aperçut dans sa physionomie les signes d'une tristesse horrible à voir. Il était redevenu père. La raison avait chassé la science. Il regarda dans la cour, dans le jardin, et quand il fut certain de se trouver seul avec sa fille, il vint à elle par un mouvement plein de mélancolie et de bonté. « Mon enfant, » dit-il en lui prenant la main et en la lui serrant avec une onctueuse tendresse, « pardonne à ton vieux père. » « Oui, oui, Marguerite, j'ai eu tort. » Toi seul as raison. Tant que j'aurai pas trouvé, je suis un misérable. M'en irai d'ici. Je veux pas voir Van Claes, dit-il en montrant le portrait du martyr. Il est mort pour la liberté, je serai mort pour la science. Et lui vénérer, moi haï.
Haï, mon père, non, dit-elle en se jetant sur son sein. Nous vous adorons tous, n'est-ce pas, Félicie? Dit-elle à sa sœur qui entrait en ce moment.
Qu'avez-vous, mon cher père? Dit la jeune fille en lui prenant la main.
Vous êtes ruiné.
Eh, dit Félicie, nos frères nous feront une fortune. Jean est toujours le premier dans sa classe.
Tenez, mon père, reprit Marguerite, en amenant Balthazar par un mouvement plein de grâce et de câlinerie filiale devant la cheminée où elle prit quelques papiers qui étaient sous le cartel. Voici vos lettres de change.
Mais n'en souscrivez plus. Il n'y aurait plus rien pour les payer.
Mais tu as donc de l'argent?
Dit Balthazar à l'oreille de Marguerite quand il fut revenu de sa surprise. Ce mot suffoqua cette héroïque fille, tant il y avait de délire, de joie, d'espérance dans la figure de son père qui regardait autour de lui comme pour découvrir de l'or.
« Mon père, dit-elle avec un accent de douleur, oui, j'ai ma fortune.
« Donne-la-moi, dit-il, en laissant échapper un geste avide. « Oh, je te rendrai tout au centuple.
« Oui, je vous la donnerai, répondit Marguerite, en contemplant Balthazar, qui ne comprit pas le sens que sa fille mettait à ce mot.
« Oh, ma chère fille, mais dit-il, mais tu nous sauves la vie. « J'ai imaginé une dernière expérience après laquelle il n'y a plus rien de possible. « Ah, si cette fois je ne trouve pas, il faudra renoncer à chercher l'absolu. « Donne-moi le bras, viens, mon enfant chéri. Oh, « Je voudrais te faire la femme la plus heureuse de la terre. « Tu me rends au bonheur, à la gloire. « Tu me procures le pouvoir de vous combler de résorts, « vous accablerai de joyaux, de richesses. »
Il baisa sa fille au front, lui prit les mains, les serra, lui témoigna sa joie par des câlineries qui parurent presque serviles à Marguerite. Pendant le dîner, Balthazar ne voyait qu'elle. Il la regardait avec l'empressement, avec l'attention, la vivacité qu'un amant déploie pour sa maîtresse. Faisait-elle un mouvement? Il cherchait à deviner sa pensée, son désir, et se levait pour la servir. Il la rendait honteuse. Il mettait à ses soins une sorte de jeunesse qui contrastait avec sa vieillesse anticipée. Mais à ses calocheries, Marguerite opposait le tableau de la détresse actuelle, soit par un mot de doute, soit par un regard qu'elle jetait sur les rayons vides des dressoirs de cette salle à manger.
« Va, lui dit-il, mais dans 6 mois, nous remplirons ça d'or et de merveilles. Tu seras comme une reine.
Bah, la nature entière nous appartiendra. Nous serons au-dessus de tout. Et par toi, ma Marguerite. Margarita, reprit-il en souriant. Mais ton nom est une prophétie. Margarita veut dire une perle.
Stern a dit cela quelque part. As-tu lu, Stern? Veux-tu un Stern? Ça t'abusera.
Mais la perle est, dit-on, le fruit d'une maladie, reprit-elle, et nous avons déjà bien souffert.
Mais ne sois pas triste, tu feras le bonheur de ceux que tu aimes. Tu seras bien puissante, bien riche.
Mademoiselle a si bon cœur, dit le mulquinier, dont la face en écumoire grimaça péniblement un sourire.